Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le Covid-19 n'est pas qu'une méchante grippe. L'INSERM alerte ce matin quand l'exécutif français se sert du test positif d'Emmanuel Macron pour rappeler l'importance des gestes barrières. À quelques heures maintenant des vacances scolaires, la maladie du président pourrait en tout cas chambouler les négociations à l'échelle européenne, vous l'entendrez.
Dans ce journal, nous nous pencherons ensuite sur la mauvaise posture de la France au Mali. Paris aimerait passer le relais aux troupes du G5 Sahel, mais la force Barkhane semble aujourd'hui indispensable pour lutter contre les djihadistes dans la région.
Nouvelle manifestation de policiers hier soir en France. Ce matin, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, reçoit leurs représentants syndicaux, idem pour les gendarmes. Tentative de réconciliation en vue.
Et puis la mise en concurrence de certaines lignes intercités n'attire pas. L'État a donc décidé de suspendre l'appel d'offres. Nous y reviendrons dans un instant.
Quelques notes de Beethoven en fin de journal, Guillaume. Le compositeur allemand naissait il y a exactement 250 ans. Non, le Covid-19 n'est pas qu'une grippette. Des chercheurs de l'INSERM et du CHU de Dijon affirment ce matin que le SARS-CoV-2 est responsable de 3 fois plus de décès à l'hôpital que la grippe saisonnière. L'étude compare les périodes les plus aiguës des deux épidémies, plus de morts donc et d'hospitalisations à cause du Covid-19. Hier soir déjà, les autorités sanitaires en France évoquaient une situation préoccupante en ce moment avec une hausse significative du nombre de cas positifs recensés ces dernières 24 heures, 18 000 encore. Parmi ces nouveaux cas, le président lui-même a paru fatigué hier soir. Emmanuel Macron est fiévreux et il est confiné à Versailles, dans la résidence officielle de la Lanterne, avec une équipe réduite. Selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, le chef de l'État aurait pu être contaminé à Bruxelles en fin de semaine dernière lors d'un sommet européen.
Le chef de l'État, en l'occurrence, n'a pas été manifestement contaminé au cours d'un déjeuner ou d'un dîner à l'Élysée, mais vraisemblablement, d'après ce qu'on entend, en tout cas possiblement lors d'un Conseil européen il y a quelques jours, 4 ou 5 jours à Bruxelles, avec des chefs d'État, un dîner de travail, je crois, qui avait été organisé dans une grande pièce espacée. Malheureusement, on n'est pas à l'abri d'une contamination. Mais ce qui veut bien dire, lorsque nous disons de faire très attention, surtout dans les moments où l'on mange, où l'on boit, vous ne pouvez pas lui reprocher d'aller rencontrer, croiser des chefs d'État européens, surtout au moment de parler à la fois de la relance pour la France et de l'organisation de la campagne vaccinale dans notre pays, sur le continent européen.
L'exécutif français utilise donc cette contamination pour répéter l'importance des gestes barrières à moins d'une semaine de Noël. Mais la contamination d'Emmanuel Macron pourrait aussi bousculer les réunions entre chefs d'État et de gouvernement, Marie-Pierre Vérot.
Sitôt connue, la nouvelle a jeté un froid dans le cercle des dirigeants européens. Pas plus tard que la semaine dernière, Emmanuel Macron passait avec les 26 autres dirigeants une nuit de négociations échevelées à Bruxelles, avec force pause pour des bilatérales. L'objectif était d'afficher son unité face à la Turquie, de résoudre la question de l'état de droit qui menaçait de faire capoter le plan de relance et d'afficher un objectif ambitieux sur le front du climat. Objectif tenu, mais il semble que parfois les gestes barrières n'aient pas été respectés. Certes, les proches de Charles Michel, le président du Conseil, se sont empressés d'expliquer que M. Macron n'est considéré comme potentiellement contagieux qu'à partir du lundi 14 au soir, donc bien après le Conseil. Il n'en reste pas moins que plusieurs hauts dirigeants se sont mis à l'isolement. L'Espagnol et le Portugais, après avoir rencontré le président français en début de semaine, mais aussi par précaution le Luxembourgeois. Au-delà de l'empêchement à diriger normalement, ce virus vient empêtrer l'exercice diplomatique. Car si les 27 se sont retrouvés physiquement à Bruxelles, c'est bien parce que certains sujets sensibles ne peuvent se dénouer qu'en présentiel, dans des apartés, des bilatérales ou trilatérales, comme cela avait d'ailleurs déjà été le cas en juillet pour arracher le plan de relance. Tout n'est pas non plus bon à dire dans des réunions par écran dont on ne contrôle pas forcément l'accès. Le faible niveau de sécurité de ces visios à Bruxelles a d'ailleurs été récemment épinglé. Si le virus continue sa progression, voilà qui risque singulièrement de gripper la machine à conclure des accords.
À l'échelle internationale, la France aimerait bien trouver un accord, une solution en tout cas pour se désengager du Mali. 4 mois après le putsch dans ce pays qui compte 20 millions d'habitants, la situation ne s'améliore pas et la force française Barkhane reste au Grand Dam de Paris le principal rempart contre les djihadistes. Il y a encore 2 jours, un soldat malien était tué dans une explosion. Cela inquiète, cela embête la diplomatie française pour qui l'hypothèse d'un retrait progressif n'est plus un tabou, Bertrand Galichet.
Passer le relais aux troupes du G5 Sahel en réduisant les effectifs de l'opération Barkhane, c'est une demande pressante de la France. Le chef d'état-major des armées François Lecoing a traité sur place la semaine dernière. Sans renoncer à traquer les djihadistes, Paris martèle inlassablement le même message. Les états de la région doivent assumer leur propre sécurité, à commencer par le Mali. Sauf que c'est pour l'instant un vœu pieux. L'armée malienne, instigatrice il y a 4 mois du putsch qui a mis en place un pouvoir civil de transition, garde la main sur la politique de défense. 13 des 20 postes de gouverneurs régionaux du Mali ont été attribués à des officiers, mais les soldats maliens, mal équipés, mal entraînés, malgré les efforts de la mission de formation de l'Union européenne, restent vulnérables et très peu opérationnels. Le groupement de forces spéciales européennes Takuba, censé accompagner des troupes d'élite maliennes dans des opérations commando, reste embryonnaire. Fin novembre, Emmanuel Macron avait indiqué qu'il y aura dans les prochains mois des décisions à prendre pour faire évoluer la force Barkhane.
Bertrand Galichet. 344 élèves ont été libérés par leurs ravisseurs au Nigeria hier soir dans le nord-ouest du pays. Ce sont des collégiens et lycéens qui avaient été enlevés il y a une semaine par des hommes armés surnommés bandits dans cette région du Nigeria. Hier, les djihadistes de Boko Haram avaient diffusé une vidéo des lycéens enlevés. 344 ont donc été libérés hier soir. On ne sait pas exactement combien avaient été kidnappés la semaine dernière. France Culture, il est 8h passé de 6 minutes. Des policiers se sont rassemblés hier soir à Tours et à Bordeaux. Des manifestations pour exprimer leur ras-le-bol, selon les pancartes. Ras-le-bol des allusions constantes aux violences policières et au contrôle de faciès. Ils ne digèrent pas, en fait, l'interview d'Emmanuel Macron il y a 2 semaines sur Brut. Ce matin, les représentants de policiers et de gendarmes seront reçus au ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin, le ministre, va tenter de les apaiser et peut-être d'être le trait d'union entre la police et le sommet de l'État, Rosalie Lafarge.
Les mots du président sur Brut ont bien du mal à passer auprès d'une partie des forces de l'ordre. Le sénateur Les Républicains Michel Savin s'en est fait l'écho cette semaine dans l'hémicycle du Palais du Luxembourg.
Par ses propos, les policiers ont le sentiment d'être lâchés par le président de la République.
Ce n'est absolument pas le cas, assure immédiatement le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
Justement, ce vendredi, je reçois les syndicats de police, l'ensemble des syndicats de police, l'intégralité des syndicats de police, qui en bilatéral vont pouvoir évoquer un certain nombre de sujets et j'aurai l'occasion de faire des annonces autorisées par Monsieur le Premier ministre et Monsieur le Président de la République.
Comprenez, il n'y a pas de rupture ni entre Beauvau et les forces de l'ordre, ni entre le Président de la République et Beauvau, et donc plus généralement pas de rupture entre les policiers, les gendarmes et Emmanuel Macron. Mais Gérald Darmanin peut-il tout seul tenter de rassurer les forces de l'ordre quant au soutien de l'exécutif? Pas vraiment, à en croire le politologue et président de Polling Vox, Jérôme Sainte-Marie.
C'est très difficile pour Darmanin. Au fond, les policiers attendent davantage du garde des Sceaux pour les protéger contre d'éventuelles poursuites et de Bercy, du ministère des Finances, pour voir leurs heures supplémentaires payées, leurs conditions de travail améliorées. Ils attendent beaucoup plus de ces deux ministères que du ministre de l'Intérieur lui-même, d'autant plus que le poids politique de Gérald Darmanin n'est pas si important.
Souvent comparé à Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin n'a effectivement à ce jour pas le côté présidentiable qu'avait à l'époque le ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac, mais il a su se rendre indispensable dans le dispositif d'Emmanuel Macron, une position qui pourrait être confortée s'il parvient à ramener tous les syndicats autour de la table du Beauvau de la sécurité.
Une concertation à laquelle les syndicats Alliance et UNSA ne veulent en effet pas participer pour le moment. C'est un échec. Échec dans l'appel d'offres lancé par l'État pour s'occuper des trains intercités entre Nantes et Lyon et Nantes et Bordeaux. Après 2 ans d'attente pour trouver un nouvel opérateur à partir de 2022, un seul candidat s'est proposé et il s'agit de la SNCF elle-même. L'État a donc préféré décaler cette procédure jusqu'à avoir, dit l'exécutif, une visibilité claire sur l'issue de la crise sanitaire. Car à l'heure actuelle, cette reprise des intercités ne convainc aucune autre entreprise que la SNCF, Thomas Larabi.
Les principaux opérateurs privés intéressés, et notamment l'allemand Transdev, n'ont pas souhaité donner suite. Ils évoquent des garanties insuffisantes de l'État ou encore de trop nombreux travaux à venir sur les voies. De son côté, l'exécutif agite l'excuse du Covid, mais pour le délégué Sudrail, Fabien Villedieu, cet échec est avant tout une preuve que la privatisation du secteur ferroviaire est une mauvaise idée.
Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que dès qu'une entreprise privée serait confrontée à une difficulté, ben, y a plus personne. Alors même que justement, nous avait vendu l'inverse. Le privé, c'était génial, c'était vachement plus efficace que ce qu'on était capable de faire. Et on se rend compte que pas du tout. Heureusement qu'on a une entreprise publique comme la SNCF qui ne plie pas les Gaules aux premières difficultés.
La SNCF regrette que son projet n'ait pas été étudié. Elle garde pour le moment l'exploitation des deux lignes, une situation qui pourrait durer selon l'économiste Marc Ivaldi.
Dans la situation actuelle, il y a très peu de chances qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui rentrent sur le marché en France. Même si ce sont des entreprises efficaces dans le sens où elles auraient des coûts moins élevés que la SNCF, pour des trains comme ça, compte tenu des prix des billets, et compte tenu des subventions, eh bien, c'est pas rentable de rentrer.
L'échec est, quoi qu'il en soit, très symbolique pour le gouvernement qui voulait faire de ces deux lignes un exemple, car avant 2023, toutes les régions doivent formuler des appels d'offres pour ouvrir cette fois les TER à la concurrence.
Thomas Larabie pour France Culture. Au lendemain du verdict dans le procès des attentats de janvier 2015, c'est un autre procès terroriste qui s'est achevé hier, celui de l'attentat du Thalys en août 2015, qui avait fait deux blessés. L'auteur des tir, Ayoub El-Kazani a été condamné hier à la réclusion criminelle à perpétuité. Terrorisme, Covid-19, réchauffement climatique. Voici donc les gros titres de l'actualité de cette année 2020, régulièrement en une de vos journaux. Événement anxiogène qu'il a fallu pour beaucoup de parents expliquer aux enfants. Comment informer les enfants tout en les préservant? Aurélie Kiefer a tenté de répondre à cette question au gré de son grand reportage qu'elle vous propose ce vendredi. Aurélie Kiefer a notamment rencontré Johanna. Cette mère de famille a par exemple jugé nécessaire de parler à ses deux enfants de l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty en octobre dernier. Elle se souvient d'un moment éprouvant.
Moi, ce week-end-là, en fait, j'étais assez mal parce que je me suis dit... j'ai touché du doigt qu'ils allaient grandir dans ce monde-là. C'est comme si jusque-là, j'essayais de les garder dans une petite bulle et que le fait de leur expliquer tout ça, c'était les jeter dans le grand bain et leur dire « bah voilà, c'est ça votre pays ». On tue des gens parce qu'ils ont fait un cours d'histoire, on tue des gens parce qu'ils sont juifs, on tue des gens parce qu'ils sont journalistes. Le soir où on a expliqué ça à Solal, il a été bouleversé. Il m'a même dit qu'il ne voulait plus aller seul à l'école. Ça a duré que 24 heures. Ensuite, il s'est ressaisi. Je pense qu'il s'est juste rendu compte que le monde extérieur n'était pas tant que ça une menace. Mais dans ces moments-là, on a envie de les prendre, de vivre dans un cocon avec eux et de leur dire « mais non, n'écoutez plus rien de ce qu'on vous dit, le monde est rose, tout va bien ». Je trouve que c'est dur de faire de ces enfants des citoyens et de leur expliquer ce monde-là. C'est pas un choix facile que d'essayer de les intéresser à ce qui se passe autour d'eux, mais ils auront des meilleures armes pour la suite.
2020 à hauteur d'enfant. Vous pourrez écouter ce grand reportage d'Aurélie Kiefer ce soir à partir de 17h sur France Culture. Il a été réalisé grâce à Annie Bro et sera suivi d'une discussion animée par Véronique Rebérode. Discussion avec Anne Cordier, maîtresse de conférence habilitée à diriger des recherches en sciences de l'information et de la communication à l'université l'INSPE à Rouen, Normandie. Invitée donc à partir de 17h ce soir sur France Culture. Un grand reportage à retrouver évidemment sur notre site internet franceculture.fr. Et c'est justement pour sortir de l'horreur quotidienne qu'il faut parfois expliquer aux enfants que la sécurité routière a choisi cette année pour une fois de diffuser des spots de prévention positifs. Des moments heureux, jouer avec les enfants, écouter de la musique dans son bain, des moments filmés et réalisés par Arnaud Desplechin. Marie Gauthier-Melleret en explique ce matin au micro de Cécilia Arbona. Elle est déléguée interministérielle sécurité routière.
C'est difficile de dire que nous n'avons pas été sensibles à cet environnement particulier qu'est cette année et la crise sanitaire. Et la célébration de la vie, je crois qu'elle est encore plus nécessaire dans cette période difficile. On espère que cette campagne va nous faire réfléchir et aussi susciter une vraie émotion. Arnaud Desplechin, effectivement, a su, avec l'immense talent qui est le sien, s'emparer du thème que nous lui avons proposé. Et il nous offre, avec ses films, de très beaux moments qui donnent, je crois, envie de rire, envie de sourire et pas du tout envie de prendre des risques sur la route. Cette campagne, elle met en parallèle les petits et les très grands bonheurs de la vie avec les risques, parfois un peu idiots, qu'on est tenté de prendre sur la route.
célébrer la vie et la musique. En voilà une idée pour terminer ce journal, car en cette fin d'année, les connaisseurs fêtent les 250 ans de la naissance de Ludwig van Beethoven. Le célèbre compositeur naissait en Allemagne, à Bonn, à la mi-décembre 1770. Et hier soir, la ville allemande proposait un concert hommage sur Internet, fin d'un anniversaire trop occulté cette année, Ludovic Piétenu.
Le clou d'une année Beethoven très mouvementée, avec des concerts pour la plupart virtuels, comme ce dernier hier soir sans spectateurs à l'Opéra de Bonn, mais ils sont tous en ligne derrière leurs écrans et du monde entier partagent leur tristesse de ne plus pouvoir assister à des concerts en vrai. Le coronavirus n'est pas seulement une question de santé, c'est comme ça, dit fataliste Daniel Barenboim, 78 ans, dans une interview diffusée par la télévision allemande pendant l'entracte. Ce n'est pas seulement un problème économique, poursuit le chef d'orchestre, mais c'est un problème humain, c'est pourquoi la musique est nécessaire.
Notwendig.
Entouré de son Westminster Divan Orchestra qui réunit depuis 20 ans à Berlin des jeunes musiciens venus d'Israël et des États arabes voisins, Concerto pour piano numéro 3, composé par Beethoven autour de ses 30 ans, suivi de sa célèbre symphonie numéro 5, écrite à peine quelques années plus tard. Beethoven, gagné par sa surdité au fil des années, est souvent associé à l'homme qui lutte contre son destin. 250 ans plus tard, il est difficile de le fêter comme il se doit et des hommes et des femmes luttent contre une pandémie.
Ludovic Piétenu depuis Berlin pour les 250 ans de la naissance de Beethoven donc. La météo du jour ce vendredi, quelques pluies matinales sont prévues sur la Bretagne et les Cévennes, sur les Landes également, puisque le département a été placé en vigilance orange pour des risques de crues. Des éclaircies sont prévues en montagne et de la grisaille partout ailleurs. Ce matin, Guillaume, il fait 4 degrés à Dijon, 7 à Bordeaux, 8 degrés à Paris et Lyon, 13 degrés à Marseille.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal. Il est 8h16 sur France Culture. Dans quelques instants, on va évoquer les vacances d'hiver, des vacances d'hiver bien particulières puisque ça va être du temps libre avec énormément de contraintes. On va les évoquer ces vacances avec l'historien Sylvain Vénère. Il a notamment écrit L'ennui, histoire d'un état d'âme. Nous sommes également en compagnie de l'anthropologue Saskia Cousin qui a travaillé sur la sociologie du tourisme. Et puis nous aurons également en ligne François Damilano qui est alpiniste, guide de haute montagne et cinéaste. Il est à Chamonix et il nous dira comment ça se passe là-bas. Un billet politique avec vous, Frédéric Seyss, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Et alors, vous allez nous promettre un billet politique différent des autres.
Oui, promis, il ne sera pas question ni d'Emmanuel Macron, ni d'une contamination à la Covid.